RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Eh bien, je ne vous dirai pas le temps, vous n'avez qu'à regarder par la fenêtre. Voilà. Non mais, vous pouvez quand même vous lever. Vous êtes en train de prendre votre petit café au lait. Eh bien, c'est pas grave, vous emmenez votre tasse, le café au lait devant la fenêtre, et vous regardez quel temps il fait. D'accord? Bon. Et puis, vous serez gentil de me téléphoner pour me dire quel temps il fait, par exemple. Hein. Ben oui, après tout, ce serait sympa. Allez, on va commencer avec un très très grand. Verlaine. Paul Verlaine, figurez-vous. Et alors, figurez-vous que je ne sais pas à quelle époque il a écrit ça, mais il a fait un poème, ça s'appelle « Cogne et flic ». Ouais, vous savez, les flics, les agents de police, quoi. Fait, hein. Autrefois, j'aimais les gendarmes. Oh, drôle de goût, me direz-vous. Enfin, je leur trouvais du charme. Non, certes, au-dessus de tout. Mais je les gobais tout de même, comme on prise de bons enfants, élite de l'armée et crème, et fleurs, ils m'étaient triomphants. Leurs baudriers et leurs bicornes, si bien célébrés par Nado, d'une sécurité sans borne, flattaient mon âme de badaud. Puis, ils lampent le petit verre, avant, comme après le repas, d'un geste plus ou moins sévère, et je ne le détestais pas. Je trinquais avec les brigadiers, et nous buvions à nos amours, comme ils sciaient avec les troubades. C'était moi qui payais toujours. Depuis, je constate avec peine qu'ils sont des rosses voudraient sans procès verbal à perdre l'haleine. Quand ils jugent le cas pressant, la douille manque à la caserne, et oh, voici, grâce à tel délit qu'ils fabriquent d'un style terne, les budgets qu'il faut rétablir. À moi, les chouillas, les macaques, désormais je me voue au champ national de mort aux vaches. Fus-je pris pour un méchant. Comme aussi les sergents de ville, Jean, j'avais une estime pour eux, protecteurs de la paix civile, de l'ordre, gardiens valeureux, rempart du bien, terreur du crime, il me semblait naïveté, une apparition sublime, d'ange veillant sur la cité. Hélas, c'est encore mort aux vaches qu'il faut crier quand on les voit, massacreurs, féroces, hélas, mouchards, non point macro, soit. Mais, comme tout ivrogne qu'un dur, plus d'un rogomme monstrueux, et le haut, ce n'est nature, en un drôle, un perpétueux. Voilà. Vous vous rendez compte? Déjà à l'époque, hein? C'est même d'actualité, ça. Rappelez-vous, mai 68, les gilets jaunes, et puis maintenant, la Sorbonne, Sciences Po. Sciences Po, ils tapent sur les manifestants qui sont venus pour apprendre la politique, justement. Hein, Sciences Po, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, hein. Bon, ben, tout ça, c'est des cognes. Eh oui, comme le dit Verlaine, d'ailleurs. Vous voyez, rien n'a changé, hein, tout est toujours pareil. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, hein. On ne va pas refaire le monde 50 fois. Ils l'ont fait une fois, ils le conservent comme il est, puis c'est tout, bon. Hein. Alors, maintenant, on va aller sur... cette fameuse revue qui, je ne vais pas dire qui fait du tort au journal de l'Hydropathe, mais c'est la version Bergerac, d'un club de poésie qu'a Bergerac, mais une partie de leurs membres viennent à nos réunions des Hydropathes. Donc ils sont multiples, c'est pour ça que ça s'appelle la vie multiple, voilà. Alors eux par contre ils font tous les 3 mois. Mais c'est presque un livre, hein. c'est pas un journal, hein. C'est pas une revue. Hein. Et alors, j'ai un poème qui me paraît intéressant, de Bernard Poulain. Ça s'appelle « Pensée interdite ». Alors, il adresse ce poème aux femmes iraniennes, aux résistantes qui couvrent leur bouche de paches blanches, palimpseste de leur pensée interdite. Quand on a trop à dire, quand on n'a pas le droit de dire ce que l'on a à dire, ça, c'est interdit de le dire. Quand on risque sa vie à le dire, alors une page blanche, sans mots, silencieuse, mais portant tous ces mots. De ceux qui ont tant à dire, des cris des baïonnés, le visage des femmes iraniennes, aux cheveux virevoltants au vent, la soumission des captives afghanes. Alors que même ceux qui peuvent écrire, qui pourraient tout dire de tous les malheurs du monde, retournent leur page, qui deviendra le palinceps des poèmes secrets, des cris muets de celles et de ceux qui n'ont pu noircir leur page. Il y a des pages plus puissantes que toutes les censures, quand la page reste blanche, non pas par peur de perdre la liberté, mais pour la honte infligée au tyran, exécutant celui qui dira la vérité. Page blanche, tu es, bibliothèque secrète de toutes les pensées interdites. Et il fait naître pour elle, pour être, truisme absolu. Voilà. Mais ça, c'était un autre poème que je commençais, mais je n'ai pas compris, que je croyais que c'était la fin. Je croyais que c'était la suite. Hein. Mais ce n'est pas grave. Je vous lirai un autre jour. D'accord ? Bon. Iron Butterfly, figurez-vous. Alors ça, c'est un... Comment on pourrait dire ? Une anthologie. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Alors si je vous le dis non, c'est de l'anglais, moi je vais mal parler l'anglais, mais most uninting you went. Voilà. Most anything that you want, girl, is a whole right that I believe. Most anything that you want, girl, is a whole right. Alors, normalement, cet air dure 25 minutes. Mais ils ont eu l'intelligence, ce groupe, Iron Butterfly, de couper des morceaux, ce qui nous permet de passer que des petits morceaux de 3 minutes, 50, voilà, pas si. Et moi, je l'avais entendu en boîte de nuit à Tanger, au Maroc, ce morceau-là. Dans la boîte de nuit, alors là, les 25 minutes passaient à la suite et on dansait sur ces 25 minutes, hein. C'était impeccable, c'était superbe. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est là que j'ai connu ce morceau. Et je me suis vite précipité quand je suis revenu en France d'acheter le disque. Alors, à l'époque, c'était des vinyles. Hein. C'était en 70. Ouais, 70, exactement. Alors, là, j'ai un livre sur Tahar Ben Jeloun. Alors, il a écrit un poème sur Fès, la ville du Maroc, là, Fès, qui était une des villes impériales. Hein. Il y en avait 3 ou 4, je crois. Il y avait Moulay Idriss, il y avait Meknès, il y avait Fès, et puis l'autre, je ne me souviens plus. Bon. Et là, il dit « ville, Fès, ville répudiée ». Oh, il a dû se passer quelque chose de grave. Hein. Attendez, je vais le lire en même temps que vous allez m'écouter, comme ça vous allez savoir en même temps que moi ce qui s'est passé. Hein. Je n'ai pas toujours le temps de lire les poèmes avant de vous les réciter directement. Hein. Bon, mais comme j'arrive à pas trop mal lire, pas faire trop de bêtises de diction, hein, donc ça va, la preuve c'est que personne n'a téléphoné pour m'engueuler. Hein. Bon. Allez, ville entière, ville sentier de dédale et de le désert se replie, fiction qui adulait nos rêves, ville au seuil des égarés, nul refuge que le matin étalé. Ville sans terre, une légende à chaudes larmes, gorgée amère d'un soleil refusé. Ville, j'ai appris ta colère à même le feu, j'ai appris l'aube et tes rues qui se donnent. Ville, mille et une nuits quotidiennes, tu n'as plus que les enfants pour otage, l'exil sur tes cimes, l'oubli en échange. Je reviens sur tes pas, mon itinéraire a commencé il y a bientôt 1000 ans. Je dis la ville et te donne ma mémoire. C'est un enfant enceinte venu de tout astre, où j'ai perdu verbe et corps, déposé les armes vaines à blanc. Je dis la rue et te donne ma démence, rime prodige dans le murmure du sang, égrène ses destinées sans jamais baisser le front. Je dis la horde et te donne le ciel, où il n'y a plus que suicide et étoiles meurtries. Nous ne dirons pas le printemps, ni les autres choses qui font rêver et mourir. Nous disons aujourd'hui le silence et sortons les archives des coudes serrés. Fès, ô ville des villes, aimée et répudiée, tu n'as plus de berceau, tu n'as même pas tes ruelles à pointer sur des corps, à l'envers des minarets, fatigués, momies des regards hirsutes, se donnent la mitraille légendaire et mémoire en exil. Tes murailles exportées sur dos d'homme, au pays qui n'a pas faim, perdant ses chevaux de race, pardon, lance flammes sur les jambes bariolées. La fissure fait son chemin, entre la pierre et le sang paisible. Des mots s'accumulent et vous barrent la route, comme au temps des invasions séculaires ou de l'erreur prise en héritage. Veuve sur les marchés des esclaves, à dire ton nom, te détruire, et sur tes ruines un feu avec les os des ancêtres. Veuve et tes fils mariés au ciel moribond, laissés à l'oubli en instance de la démence. Veuve, enfin, sur tes cimes, à la racine de tout ce que tu nous fumes, pierre, dédale et un peu de cendre. Dans la rue, qui s'insinue en spirale et s'arrête au seuil du souvenir emmuré, de là l'odeur de tes remontrances au jour qui mousse, des moussems. Alors, du moussem, des moussems, il y a Moulay Idriss. Vous voyez, je vous avais parlé de Moulay Idriss. Hein, tes enfants s'affolent déjà. Quel destin mettre en poche? Quel avenir s'incruster sur tes murs, amnésie? Une parole à surprendre entre tes yeux, et la ville s'élève pour partir vers d'autres sites. Les puits ne sont plus des puits, mais des réserves d'étoiles à distribuer aux enfants maléfiques. Le feu se noie dans le repos d'une larme, à planter au-dessus des flots qui avancent dans vos rêves jusqu'au matin du fanal. Un matin éventré par vos larmes à genoux. Ô ville des villes, tu portes en toi l'absence et tu règnes à peine. Sur tes cimetières, tes remparts s'inclinent pendant que les étrangers sortent de l'étuve. L'étuve paraît. Il n'est de toi que l'amnésie, conquise, répudiée, sur mont aride. Voilà. Alors, une petite anecdote, Moulay Idriss, c'était un repère de brigands. C'est-à-dire que là, ils étaient protégés dans cette ville, mais s'ils sortaient de cette ville, ils étaient tout de suite attrapés par ce qu'on pourrait appeler à l'époque les gendarmes, hein, voilà, ou la police. Voilà. Donc, ils restaient, alors ils rentraient là-dedans, ils ne voulaient plus en sortir, parce que sinon, ils se faisaient piquer. Quoi, hein. Bon, vous voyez, c'est quand même bizarre, hein, la vie. Est-ce qu'on aurait une ville comme ça en France ? Marseille, peut-être ? je blague. Alors, vous savez, ce fameux crotte de bique, hein ? Vous savez, c'est tout un programme, hein ? C'est-à-dire qu'en fait, il fait des petites phrases marrantes, subtiles, des jeux de mots, hein ? Et le gars qui a écrit ça s'appelle, attendez, parce que là, Christian Lacombe. Ouais, c'est pas lui qui s'appelle Crotte de Bique. Hein. Et j'avais commencé à vous les lire il y a quelques semaines, mais je ne vais pas tout vous lire, donc je vais vous lire au fur et à mesure. Hein. C'est un petit peu comme des aphorismes, en fait. Hein. Quelles sont les bêtes les plus susceptibles ? Les araignées, car elles prennent facilement la mouche. Pourquoi les blés peuvent-ils être rangés dans la famille des mammifères ? Parce que les épithètes, waouh ! Pourquoi un chat est-il plus coloreux qu'un bœuf ? Parce que le chat rue avant les bœufs, bah oui. Comment appelle-t-on aux Pays-Bas les cobayes efféminés ? Bah des Amsterdams. Qu'est-ce qu'un abreuvoir ? C'est pour mettre de l'eau dans son bovin. Comment trouve-t-on une belle pouliche ? Bah on trouve ça beau. Bah oui. Que lit un cheval savant ? Bah, les lettres de mon poulain. Que faut-il dire à une vache pour la prendre en photo ? Allez, ne bousons plus. Pourquoi y a-t-il des éleveurs de chiens indifférents ? Parce qu'il n'y a que des mordus. Allez, encore un. Le petit noir, fils de cannibale, arrive à l'école avec un petit blanc. C'est ton compagnon, dit le maître ? Non, c'est mon goûter. Bon, allez, j'arrête là parce que je ne vais pas vous lire tout le bouquin, sinon on est encore là demain matin. Hein. Bon. Alors, est-ce que vous connaissez un certain Stevie Wonder ? Bon, c'est encore un Américain, ça. Hein. Mais alors, je veux dire, ça déménage. Hein. Alors, Sinead, le titre a été un peu bouffé, bon. C'est pas à cause de moi, c'est pas à cause du technicien. C'est à cause de l'imprimante. Voilà. I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Ooh, baby. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir James Bond sur scène, à la télévision par exemple. Il remue sacrément le gars. Waouh ! Incroyable. Alors, là j'ai un bouquin, ça s'appelle « Rions avec les poètes ». Donc c'est rien que des poètes qui ont écrit sur des trucs marrons. Ou presque marrons. Hein. Alors Jacques Baer, il a écrit en 1977 « Art poétique ». J'ai des poèmes que j'écris de la main droite, d'autres que j'écris parfois de la main gauche, selon l'inspiration. Il y en a d'autres que je n'écris pas, mais que je pense et que je sens. Mais tout bien réfléchi, ce ne sont pas des poèmes. Si je les pense, c'est donc que je suis. Et si je les sens, c'est qu'ils ont une odeur. Et une odeur ne fait pas un poème, c'est bien connu. Il est court, mais il est bien. Hein il... Alors, il y a énormément de poètes qui ont écrit à partir de poèmes, c'est-à-dire le mot poétique, le mot poème. Moi-même, j'ai écrit, ou j'ai fait semblant d'écrire que j'écrivais un poème et que j'écrivais pas un poème, un peu comme lui. Hein. Ça m'arrive, ça. Ou alors, moi, ce qu'il y a, c'est que tu as des fois des virgules qui ne veulent pas être à la bonne place. C'est le point d'interrogation qui veut lui piquer sa place, vous voyez. Et alors, le point final, il est tranquille, il attend peinard que ça soit terminé, vous voyez, par exemple. Hein. Alors, c'est des choses comme ça qu'on peut écrire aussi, qui ont un petit côté dérisoire, mais qui est, c'est compréhensible quand même, hein, on comprend. Je vous en lirai, moi, mais les miens, hein, bon, pas toujours ceux des autres. D'ailleurs, pour le moment, je n'ai pas encore lu un de mes poèmes. Hein. Eh bien, tiens, pour la peine, je vais vous le faire. Allez, tout de suite même. Oh, en plus, la première Tolada en 1903. Et ça, à Périgueux. Hein. Alors, c'était là. Alors, et ça a été écrit au moment de la 100e Félibrée, qui avait été aussi à Périgueux. Les gueux tournaient autour des bourgeois attablés pour le festin que l'on nommait la Tolada. Maigres et puants, ils cherchaient de quoi manger, attirés par cette ripaille. Mais ces gros arrogants, insensibles à la misère du monde, avec leur allure de riches et de grands bourgeois, ignoraient la convoitise sur cette bouffe abondante et incongrue à la vue du mendiant. Le plus maigre parmi les maigres s'approcha plus près en tendant sa main décharnée. Les grosses têtes joufflues, assises sur leur gros cul, la tournaient de l'autre côté pour ignorer la pauvreté qui s'approchait d'eux. Seuls les chiens des riches cochons avaient droit au reste de cette ripaille honteuse. Les repus rigolaient, buvaient, s'embrassaient dans la bouche pleine de vin vieux. C'est dégueulasse. Mais ce spectacle honteux échauffait les esprits des miséreux. Des cris violents commençaient à se faire entendre autour des tables des convives où les bruits de mastication s'arrêtaient subitement. La meute de famélique s'approcha des victoires à portée de main. Le chef des bourgeois appela par peur la maréchaussée en voyant cette vague de pauvreté déferler pour avoir leur part de l'orgie des riches. C'était la première Tolada en 1903. Donc il y a de la vérité dans ce que j'ai écrit là. Je suis parti de faits réels. Mais après, bon, j'ai brodé. Hein. D'ailleurs, les bourgeoises avaient de la broderie sur eux, hein, sur elles, pardon. Tiens, bah, là-bas, je dis, les bourgeoises aux décolletés généreux se collaient contre leurs maris de peur des voyous qui en voulaient aux assiettes encore pleines. La fête de l'Occitanie en 1903 n'était pas faite pour les gueux. Même à Périgueux, en 2019, où les loups bournats mangeaient à leur faim. Voilà. J'avais assisté à la... j'ai vu plusieurs... on appelle ça une félibrée maintenant. Hein. Plusieurs félibrées à Périgueux. J'ai dû en voir, trois ou quatre. J'en ai vu une à Brantôme. À Périgueux, j'en ai vu trois ou quatre. Parce que normalement, c'est tous les 50 ans. Parce qu'il y a 50 cantons. Donc c'est par canton. Une félibrée par canton, tous les ans. Hein. Et seulement, il y a des cantons qui ne sont pas assez riches pour faire la félibrée. Donc ils passent leur tour. Et c'est pour ça que des villes comme Périgueux ou des villes comme Bergerac, des villes bon, où il y a quand même un petit peu d'argent pour faire ce genre de cérémonie, de fête, en fait. Ça coûte cher. Hein. Ça doit coûter cher, hein, surtout aux contribuables. Et donc c'est pour ça que souvent, ça revient plus vite qu'à son tour dans les grandes villes comme Périgueux ou Bergerac, ou même Sarlat. Hein. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire dire. Bon. Alors, tiens, encore un poème à moi. Sur le récit au retour d'un voyage fabuleux, Haïti, la cité des poètes. Alors là-bas, j'ai rencontré en Haïti, quand j'y étais en 2002, un poète manchot, figurez-vous. Et alors, il serait en France, paraît-il, maintenant. Alors je pense qu'ils ont dû lui faire une prothèse, parce qu'il ne l'avait pas quand... c'était un ado, hein, c'était pas un bébé, hein, c'était un gars qui avait peut-être 17 ou 18 ans à l'époque déjà. Hein. Le poète manchot. Haïti venait d'enfanter un poète manchot. La main gauche n'avait plus sa valeur, puisque la pose de la dernière prose n'exigeait pas d'en faire un maçon. Ben oui, c'est difficile de faire un maçon un manchot. Hein. La cité des poètes tentait de se replonger dans un livre entrouvert sur ce jeune proseur de littérature. Puis soudain, un deuxième arriva. Puis, le troisième prit la plume d'escampette et la trempa dans l'encrier de sa renommée. Jérémie renaissait de ses cendres. Le quatrième poète se présenta après avoir entendu le chahut des premiers et le mien. Devant un parterre de jeunes femmes presque savantes, Périgueux et Jérémie se couchaient dans un lit de prose. Pour combien de temps ? Le club des hydropathes lira pour la cité des poètes et vice-versa si la prose d'un matin chante aussi bien. Casamajor, c'est donc le poète manchot, Casamajor remontait son sourire, oublié un certain matin où le malheur grimpait aux arbres en le projetant par terre sans lui laisser la chance d'être noir de rage. Alors attendez, la chance d'être noir de rage, d'être né en Haïti pour perdre ce bras si pratique pour casser la peau des amantes brunes. Voilà. Alors, enfin, il est tombé d'un arbre, bon, comme tous les gosses qui s'amusent et qui jouent, et il est mal tombé. Et son bras, en fait, a commencé à s'envenimer, les plaies se sont envenimées. Et c'est une infirmière qui venait de je ne sais plus quelle association humanitaire qui a dit qu'il faut lui couper le bras parce que sinon ça, la gangrène va aller jusqu'au cœur, il va mourir. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils lui ont coupé le bras. Hein. Et moi, je l'ai connu sans prothèse. Hein. Et en plus, là-bas, les prothèses, ils les faisaient en bois. Bon, ça ne devait pas être très pratique. Hein. Bon. Mais bon, c'est comme ça. Oh, il ne nous reste que 3 minutes 30. J'ai un bon technicien, il me met le compte à rebours, là. Je vois le compte à rebours tout seul. Hein. J'ai pas besoin de lui pour regarder qu'il reste 30 minutes. 3 minutes, pardon. 3 minutes 17. Bon, on a peut-être le temps quand même de passer... Ah oui, tiens, une 34 Prévert, tourneur de ritournelle. Voilà, c'est bon. Londres.
Le tournesol est une fleur, le tournevis un outil, le tournepierre un oiseau, le tournobus est un homme. Tourneur de ritournelle, comme d'autres de cuivre ou de porcelaine, un gentleman en habit noir, dans les plus riches quartiers, travaille surtout le soir. Et la très mauvaise musique de son clavecin mécanique entraîne le mélomane dans un autre domaine que celui du savoir. Alors le mélomane, à juste titre irrité, comme il paierait pour passer un pont, jette une méprisante pièce de monnaie pour acheter le droit d'oublier la chanson. Bien sûr, un homme peut perdre la mémoire, surtout quand il a les moyens, mais la mémoire peut égarer un homme tout aussi bien. Et le voilà comme dans la tour de Londres, prisonnier de cet air grégaire et méprisé, de cet air de corde et de cuivre, et d'espoir et de vent, et de rêves brisés, de jeunesse perdue, de beauté saccagée. Et il a beau presser le pas, les épaules levées, et la tête hochée, des souvenirs en foule, en dansant devant lui, l'empêchent d'avancer. Alors il les suit, et se laisse emporter, comme un enfant très distingué, entraîné malgré lui par une nurse un peu saoule, soudain follement heureuse d'être si mal élevée, dans le sauvage jardin des fées, en pleine vulgarité.
Voilà, oh, c'est chouette à chaque fois, j'adore ça, moi. Alors là, j'ai un tout petit poème, parce qu'il me reste 1 minute 36. Pensée s'appelait. La femme d'Arthur ne pensait pas. Arthur pensait que sa femme pensait. Le fils d'Arthur pensait ce que pensait son père. Par contre, la sœur ne pensait pas, que sa mère ne pensait pas plus. Le Benjamin regardait ses parents en pensant qu'il fallait penser le contraire. Arthur comprit que la pensée gratuite ne prenait pas de valeur. Que penser d'une France, d'une famille qui ne pense qu'à se dépenser ? Ah, ce fut écrit le 6 avril 2000. Ça fait 24 ans que j'ai écrit cette connerie, là. Hein ? Enfin non, c'est pas une connerie, c'est un poème. Enfin, c'est pas un poème, c'est de la prose. Alors, je vous dis au revoir, à bientôt. Et puis n'oubliez pas... Hein, n'oubliez pas qu'on est au mois de mai maintenant. Hein. Allez, bonsoir.